I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Boom, le podcast des échos qui décrypte l'économie de la musique. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous attarder sur un genre musical bien précis, un monde en soi. Certains provocateurs osent même parler de clan. Il faut dire qu'il s'agit d'un univers qui semble quand même un peu clos dans un marché de la musique où le hip-hop domine. Ce monde est bien différent et bien plus vieux que le milieu du rap. Et pour l'occasion, changement de générique. La musique classique, la grande musique, celle des Mozart et des Beethoven, qu'on écoute dans les philharmonies et sur des chaînes stéréo immenses, un genre datant du 18e, prospérant plusieurs siècles et qui, dans le business de la musique, se retrouve désormais dans une phase un peu particulière.
Je m'appelle Hervé de Franouche, je suis le directeur du label Sony Masterworks France. Le label Sony Masterworks France regroupe les activités autour des répertoires classiques, crossover, donc j'aurais tendance à dire musique assimilée au classique ou d'une esthétique classique, et jazz crossover. Je dirais que le marché classique, en ce moment, est dans une phase de mutation compliquée. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas, bien évidemment, comme pour les autres segments de musique, donc à un transfert vers une distribution digitale, essentiellement sous forme de streaming, que ce soit par abonnement payant ou en freemium. Mais cette évolution de la distribution est plus lente que pour les autres segments de musique. Donc on est vraiment dans une phase de mutation où malheureusement on fait face, comme nos collègues, j'irais, des autres segments, à une diminution assez conséquente de nos revenus physiques. Là, sur les 9 premiers mois de l'année, on est à peu près une baisse de 30% de nos revenus sur le physique. Mais notre migration sur le digital n'est pas à la mesure des autres segments. Elle est plus lente. Essentiellement, je dirais, la première raison, c'est une raison d'âge. On est sur un marché qui est plus adulte. Donc la migration sur les nouveaux modes de consommation de la musique, donc essentiellement le streaming, se fait plus lentement à la mesure justement des catégories d'âge auxquelles on a, qui constituent notre public.
Le ton de cet épisode est donné. La musique classique a été l'un des grands bénéficiaires de l'avènement du CD. La qualité était meilleure que le vinyle, l'objet était beau, on pouvait le collectionner dans sa bibliothèque et le public, généralement adulte, avait les moyens de payer. Et puis est arrivé le streaming, devenu le modèle dominant dans la consommation musicale, reléguant le CD en objet un peu encombrant. Problème, le streaming semble une affaire de jeunes. 72% des utilisateurs de Spotify seraient des millennials. Et selon l'Institut Nielsen, seuls 0,6% de ces utilisateurs-là écoutent de la musique classique. D'ailleurs, il suffit de déambuler un peu dans les couloirs de la rédaction des Échos à la recherche de jeunes pour qu'ils confirment ces chiffres. Alors, est-ce que tu écoutes de la musique classique ?
Ça m'arrive. quasi que quand je suis au travail, parce que ça me permet de me concentrer et je trouve ça agréable à écouter.
Est-ce que tu écoutes de la musique classique et à quel moment ?
Ouais, j'en écoute quand je lis.
Non, rarement. Parce que généralement, quand j'écoute de la musique, ce que je préfère, c'est les paroles. Et il n'y a pas de paroles dans la musique classique, donc ça m'ennuie rapidement.
Je ne peux pas dire que j'écoute de la musique classique de manière régulière, parce qu'effectivement, ça arrive rarement. Ça arrive quand j'ai une pulsion, effectivement, d'envie d'écoute. Et l'autre raison quand même qui me pousse à écouter, c'est que, par exemple, la musique d'un grand nombre de jeux vidéo est très inspirée de compositeurs classiques. Et parfois, pour aller me renseigner un petit peu sur ces inspirations de ces auteurs, qui sont parfois des grands musiciens, je vais écouter les grands maîtres du classique, qui sont à l'origine de ces musiques.
Je n'écoute jamais de musique classique, sauf quand je vais chez mes beaux-parents, car quand on allume l'interrupteur de leur toilette, la radio classique s'allume automatiquement.
Les jeunes grands consommateurs de musique en streaming ne sont pas les plus férus du genre, c'est clair. Mais c'est à dire que le classique doit délaisser le streaming. D'autant que selon une étude du Crédoc, on compte 50% des personnes âgées de 40 à 59 ans qui téléchargent ou écoutent en ligne leur musique. Ils sont même 29% parmi les plus de 60 ans. Et cette tendance du streaming chez les adultes s'amplifie. Il y aurait donc un marché pour le classique. Mais encore faut-il que les plateformes de streaming focalisées sur les jeunes fassent un effort et s'intéressent à cette tranche minoritaire.
Je pense aussi que de la part des acteurs, de la part des plateformes de distribution digitale,
Hervé Defranou, Sony Masterwork,
n'ont pas pris encore la mesure et n'ont pas priorisé ce segment de musique dans leur agenda. Ça va venir, je l'espère, le plus tôt possible. C'est pas encore le cas au jour d'aujourd'hui. Quand on dit prioriser, c'est-à-dire staffer, c'est-à-dire un effort sur toutes les métadonnées, parce que ça demande un référencement et justement un travail très précis sur les métadonnées, la musique classique. Et donc, cet effort global n'a pas été encore fait à la mesure de nos espérances.
Pas à la mesure des espérances des labels. Le classique aurait du mal à trouver sa place dans le streaming, à l'exception de quelques playlists type travail en musique ou concentration maximum. Voici quelques difficultés rencontrées par les adeptes de classique sur le streaming. La qualité sonore d'abord. Du MP3, quand les auditeurs classiques veulent du son non compressé. Des informations sur l'interprète, le premier violon, le compositeur. Quand sur le streaming, la plupart des utilisateurs se ruent vers les espaces nouveautés ou les compilations où l'on ne sait plus vraiment qui chante. À tous ces problèmes. Une plateforme semble avoir trouvé la solution. Elle est française, elle s'appelle Qobuz.
Je m'appelle Esther Texera, je suis directrice marketing et client chez Qobuz. Et par rapport à la création de Qobuz, l'idée de départ, c'était de créer un service fait par un passionné de musique, pour des passionnés de musique. En l'occurrence, Yves Rizel, qui est le fondateur de Qobuz, est un passionné de musique classique et de jazz. Et quand il a créé au tout départ Qobuz, et notamment dans le téléchargement, parce que c'est d'abord une plateforme de téléchargement avant de devenir une plateforme de streaming, il a créé ce service complètement à l'image de ce qu'il aurait voulu lui en tant que passionné de musique. Donc ça s'est créé comme ça. Et puis assez rapidement et assez naturellement, finalement, le catalogue qui était en classique et en jazz, il s'est assez vite élargi parce que ce que souhaite un passionné de musique classique ou un passionné de musique de jazz, c'est finalement ce que souhaitent tous les passionnés de musique.
Quand on se dit on va faire du jazz, de la musique classique, même si c'est plus par affinité au départ, hein, comment on décide d'attirer ce public? Comment on dit ben, on va marquer notre différence par rapport à d'autres plateformes de téléchargement au départ et d'autres plateformes de streaming ensuite, pour que ce public-là soit plus attiré?
Eh bien, vraiment en repartant de qu'est-ce qu'aime un passionné de musique. Et comme Qobuz, c'est créé par des passionnés de musique pour des passionnés de musique, finalement, on se parle entre communautés. Et donc, on a le même langage. Donc, ça veut dire quoi? Un passionné de musique, qu'est-ce qu'il aime? Il aime écouter déjà sa musique dans un sens qui lui plaît, avec une qualité de son qui lui plaît. Donc ça, c'est une bonne écoute. Le deuxième point, c'est avoir ses artistes préférés, ses genres préférés, et de pouvoir avoir l'information, pourquoi on a fait cet album. Et ça, c'est, je dirais, presque retrouver en streaming ce qu'on aime dans le physique. Donc c'est le livret qui va avec l'album, comprendre qui a travaillé sur cet album ou qui a travaillé sur ces morceaux. Donc ça, c'est le deuxième pan, c'est-à-dire un contenu qui est autour de la musique. Vous avez commencé par m'interroger sur le public classique. Donc si je vais sur le public classique, c'est un public qui aime encore le physique. Donc la raison pour laquelle on a toujours du téléchargement et du streaming, c'est justement pour ce type de public-là qui aime posséder, de leur dire, bah, vous pouvez toujours posséder si vous voulez l'écouter dans un certain univers, mais vous pouvez aussi l'écouter en mobilité, sachant que, sincèrement, le streaming, c'est pas que en mobilité. Hein. Chez nous, chez Qobuz, on est partenaire des plus grandes marques de Hi-Fi, et ça date pas d'hier, puisque ça date du début de Qobuz, donc ça fait 10 ans, et que donc du coup, pour nous, c'est très important d'être embarqué dans des enceintes connectées ou même dans des devices qui sont peut-être plus petits ou moins mass market. Donc ça, c'est le premier point. Pour répondre à votre question aussi, chez Qobuz, on a une différence par rapport aux autres acteurs du streaming, c'est que nous, on s'adresse à un public de plus de 40 ans. Donc là aussi, qui dit public de plus de 40 ans, dit un usage de la technologie qui est différente. C'est-à-dire, j'aime autant écouter ma musique avec mon ordinateur que je veux écouter ma musique avec mon smartphone. Et c'est complémentaire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est complémentaire. Donc pour nous, comme la mission qu'on se donne, c'est offrir la meilleure expérience musicale, on se doit... à la fois d'être sur le desktop, à la fois d'être sur les smartphones, sur les enceintes connectées. En fait, finalement, là où notre public et nos utilisateurs ont envie d'écouter la musique.
En clair, il y aurait de la place. Et ce n'est pas comme si la musique classique n'avait jamais relevé le défi de s'installer sur un mode de consommation nouveau. En voici la preuve.
Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
Donc Radio Classique est une radio qui a été créée au moment de l'explosion des radios libres en 1982.
Bertrand Dermoncourt, directeur de la musique de Radio Classique.
D'avoir une radio qui n'existait pas encore, de flux musical classique, dans le but d'avoir moins de paroles et moins de commentaires que la radio existante. Donc à l'époque... les gens qui ont lancé Radio Classique venaient d'une autre radio où on parlait beaucoup plus et on essayait de faire de la pédagogie, ce qui est très bien, mais quand les radios libres se sont lancées, les radios musicales type RFM ou Énergie, ils ont eu l'idée de décalquer un peu ce modèle-là en prenant comme base la musique classique et non pas la pop. Donc cette base-là, elle est toujours valable. Les grosses différences, c'est qu'à l'époque, elle était diffusée qu'à Paris, puisque quand les radios libres ont explosé, en fait, on pouvait diffuser sur un tout petit secteur. Donc maintenant, Radio Classique est une radio nationale, donc ça n'a plus du tout le même impact. Il n'y avait qu'un émetteur à l'époque quand ça a été lancé. Maintenant, on en a à peu près 90 et on couvre une grande partie de la France. L'année dernière, il y a eu une étude d'impact et de public qui montrait que le public de la musique classique en France était de 9 millions de personnes. Sachant que l'audience de Radio Classique est de 1,2 million par jour. Donc vous voyez, on est dans le cœur, disons, de gens qui ont une appétence. Et ce qu'on cherche à Radio Classique, c'est justement d'aller chercher d'abord les gens qui ont une vraie connaissance, un goût, qui vont au concert, etc. Mais surtout d'ouvrir au public le plus large possible et de les prendre par la main et de leur montrer que la belle et grande musique classique est accessible à tous. C'est bien pour ça qu'on passe des extraits d'œuvres et qu'on soigne un programme musical qui soit le plus agréable possible. Il faut bien remettre les chiffres à leur place. Pardon. C'est que si moi, par exemple, je suis abonné à Deezer, je vais écouter une symphonie de Brahms par Karajan, mettons, je vais l'écouter une fois, ça fait une écoute. Si mon fils s'abonne à Deezer et qu'il écoute 15 000 fois le même morceau, enfin, disons 1000 fois, parce que c'est comme ça que les jeunes ou les ados écoutent, on va avoir un rapport où lui, il aura 1000, moi j'aurai 1. Au final, ma durée d'écoute sera quasiment la même, parce que moi j'aurai vraiment écouté une heure un peu plus concentrée. Et là, on a un vrai problème en fait de perception des écoutes via le streaming. C'est un vrai problème aussi pour la rémunération. C'est-à-dire que moi, je paye un abonnement à 10 euros. Je vais être rémunéré, je vais avoir un morceau, mais ce morceau de Karajan qui aura été mon morceau du mois, on va dire. Bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais mettons que j'ai 100 écoutes de mon morceau de Karajan. Mon fils aura 1000 écoutes. Le total, ça sera 1100. Et la répartition se fera au prorata. Alors qu'en fait, le classique devrait être rémunéré à hauteur de 1, c'est-à-dire mon écoute. Moi, j'ai pas écouté de rap pendant ce temps-là. Et mon fils qui a écouté que du rap devrait rémunérer le rap à hauteur d'un abonnement, c'est-à-dire 10 euros. Alors que dans la réalité, le rap va toucher 9,90 €, et, vu les proportions que je viens de vous donner, et le classique 10 centimes. Donc c'est aussi la manière de compter actuelle qui est peut-être pas très bonne. Si on regardait vraiment les durées d'écoute et qu'on voit quels abonnés font quoi, on aurait une autre perception. Alors après, de manière générale, pour répondre à votre question, moi je trouve que le streaming, qui est une pratique qui s'est totalement imposée, hein, puisque de toute façon, le CD, enfin, ou le disque, l'album est devenu juste un cadeau. Enfin, je vois encore des gens beaucoup, moi, l'acheter à la fin d'un concert. Et je pense que dans la pop, c'est la même chose. On achète un 33 tours ou un CD pour faire un cadeau, pour garder un souvenir. Mais dans la voiture, on ne peut plus l'écouter. Sur un ordinateur, on ne peut plus. À la maison, il faut avoir gardé une platine. Mais si on va à la Fnac pour acheter une chaîne, on a plus de platine CD. Donc, de toute façon, on est obligé de se mettre au streaming. Et puis, il faut bien reconnaître que c'est quand même un moyen d'écoute absolument génial, quoi.
Peu importe le modèle de rémunération contestable, la musique classique aura bien du mal à se passer du streaming pour lequel il représente moins de 5% des volumes d'écoute sur les grandes plateformes. Pour cela, il va devoir s'ouvrir un peu et devenir un peu plus accessible. Un débat qui existait déjà avant l'avènement même du streaming.
Le cliché sur la musique classique, c'est de dire que le public est âgé et qu'il ne se renouvelle pas. Donc je précède la question, hein, vous n'allez pas manquer de me poser. Donc voilà. Donc je réponds par une boutade, mais ce que dit toujours Roberto Alagna. Roberto Alagna qui commence à avoir un certain âge, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le circuit. Et quand on lui pose cette question, il dit toujours, mais il y a 30 ans, on me disait ça. Donc si à 30 ans, le public était déjà âgé et qu'il ne se renouvelait pas, il serait déjà mort. Donc... Et c'est vrai que le public se renouvelle. Je peux vous donner un exemple de ça qui est très concret et qui est regardé dans le monde entier, c'est la Philharmonie de Paris. Donc c'est une salle qui a ouvert il y a 3 ans, qui était une sorte de défi puisqu'elle était dans le 19e arrondissement. Pardon. Et on pensait que le public était plutôt vers Neuilly et pas forcément dans le 19e, à la Villette. Et puis finalement, cette salle a ouvert, ça a été un grand succès public. La moyenne d'âge de la Philharmonie est de 43 ans, je crois, si on compte les expositions et les concerts. Donc c'est un chiffre très médian quand on pense à la population française. C'est beaucoup plus mélangé que ce qu'on croit, etc., etc. Donc j'engage tous les gens qui ne croient pas à ça de regarder sur le site de la Philharmonie cette étude de leur public qui est vraiment passionnante.
Certes, la musique classique s'ouvre grâce aux grandes salles de spectacle. Mais selon Christophe Liebensutter, directeur artistique de la Philharmonie de Hambourg, les artistes semblent encore trop distants et pas assez abordables. Ils arrivent, font leur musique et disparaissent, dit-il. Un débat récent a illustré la difficulté que peut rencontrer la musique classique à toucher un large public. L'épineuse question des applaudissements lors des concerts. Certains sont agacés, d'autres trouvent que c'est un signe d'ouverture. Y a-t-il une bonne réponse? Nous avons posé la question à un fin connaisseur de classique, le directeur de la rédaction des Échos, Nicolas Barré.
Alors, est-ce qu'il faut applaudir ou pas entre les mouvements quand on va dans des concerts de musique classique?
Alors, on peut évidemment, mais moi, je veux dire, très personnellement, ça m'agace un peu. Surtout quand on applaudit à tout bout de champ et on a tendance souvent à entendre maintenant des gens qui applaudissent. On a l'impression qu'ils ont assisté au meilleur concert depuis 15 ans. Et en fait non, il y a un peu d'exagération là-dedans. Quoi. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de le faire si on a vraiment apprécié. Mais il y a souvent, moi je trouve, trop d'applaudissements, soit entre les mouvements, soit même à la fin, où ça dure de longues minutes, et c'est parfois pas justifié complètement, quoi.
Est-ce que ce type de débat peut empêcher ou pas les nouveaux entrants, ceux qui veulent s'intéresser à la musique classique?
Ah bah oui, parce que c'est il y a un côté un peu intimidant. On est parfois on n'ose pas applaudir parce qu'on sait pas si c'est vraiment fini. Donc tout le monde se regarde et il y a toujours ce petit moment là comme ça qui dure quelques secondes où on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Et puis parfois les musiciens d'ailleurs eux-mêmes n'aident pas trop parce que on attend le signal et puis il y en a pas ou il y en a pas toujours. Donc ça c'est sûr que ça peut être intimidant, mais même, je pense qu'il faut dépasser ça et puis laisser parler ses émotions. Si on a envie d'applaudir, ben qu'on y aille. Et puis s'il y a quelques vieux conservateurs qui râlent, ben tant pis pour eux.
Heureusement, parmi les nombreux mouvements que compose le classique, on trouve ces artistes souvent jeunes qui dépoussièrent cette musique de façon à la rendre populaire. Des Lang Lang, des Camille Thomas ou encore les sœurs Camille et Julie Berthollet, seuls artistes à représenter la musique classique dans le top 200 des meilleures ventes d'albums en 2017. Nous les avons rencontrés dans la deuxième partie de Baume avant la sortie de leur prochain album Entre Deux, prévu en novembre. Vous y découvrirez notamment le titre Le Sud, que vous écoutez en ce moment même. Pour ne rien manquer de ces deux parties, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast habituelle. A très vite, dans Baume.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.